Vous écoutez Radio Galère.
Vive le cinéma!
Et bienvenue dans un nouvel épisode de Kixa. Aujourd'hui, Kixa devient Viva le cinéma grâce à Ju qui est là avec nous. Ju, ça va bien?
Ça va. Et merci Letty de me recevoir dans Kixa. Pour l'occasion, je me suis amusé à faire ce jingle avec une musique particulière. Et d'ailleurs, je me suis dit que j'allais commencer en introduction à vous parler de cette musique qui pour moi a un contexte intéressant, en plus d'être une musique super groovy.
Qu'est-ce que c'est que cette musique?
Eh bien, c'est une musique qui s'appelle Funky Fanfare. C'est une composition de Kate Mainfield, un arrangeur et compositeur britannique des années 60-70. Alors aujourd'hui, nous la connaissons bien grâce à Quentin Tarantino, qui l'a utilisée dans la bande-annonce de Kill Bill, les fausses bandes-annonces du Boulevard de la Mort.
Les fausses bandes-annonces du Boulevard de la Mort, est-ce que c'est... Il n'y a pas une histoire avec les fausses bandes-annonces de Quentin Tarantino qu'il a fini par en faire des films, genre Planète Terror ou un truc comme ça, je me trompe?
Oui, parce qu'à à l'époque, quand le Boulevard de la Mort et Planète Terror étaient sortis, c'était en hommage au cinéma Grindhouse. Okay. Donc c'était à l'époque, en fait, au cinéma, il y avait des doubles séances, double feature.
comme les concerts finalement, voilà, première partie, deuxième partie.
C'est ça, où les gens allaient au cinéma voir deux films à la suite. Et souvent, du coup, il y avait des bandes-annonces avant de films. Et en fait, pour rigoler, à l'époque, dans le Boulevard de la Mort et Planète Terror, ils avaient fait des fausses bandes-annonces. Et effectivement, il y a la fausse bande-annonce de Machete,
oui,
qui
voilà,
est ensuite devenue un vrai film.
Ah voilà, parce que je croyais que c'était Planète Terror en fait, qui était une bande-annonce à la base qui avait été transformée en film, mais c'est ça, c'est Machete évidemment.
C'est Machete. Et il me semble que cette musique, elle est aussi dans What's Upon a Time in Hollywood.
Okay.
Donc trois films de Tarantino.
Est-ce qu'il a pas un peu fait le forceur? Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait le forceur avec cette musique?
Je pense que cette musique là énormément marqué, et je vais expliquer pourquoi. Parce que, et oui, d'ailleurs, c'est lui qui hurle à la fin « Viva le cinéma !»
Ah ouais ?
Oui, oui, parce que c'est un peu son leitmotiv, il adore hurler ça sur les tournages.
Ah ouais ?
Donc, et je me suis dit que ça serait cool que ça donne le nom à l'émission ciné.
Ah, trop bien.
Et en fait, il a utilisé cette musique en hommage, du coup, à son utilisation dans les années 60-70. Elle a été intégrée, du coup, dans des bandes-annonces, diffusée avant les projections, souvent dans les drive-in américains. Donc, les drive-in, c'était des cinémas plein air que les Américains allaient voir avec leur voiture, tout en restant dans leur voiture. C'était mine de rien une époque très liée à la voiture. Quand même.
Mais est-ce que c'est pas... moi, alors, j'ai une question là-dessus. C'est que pour moi, les drive-in, c'est les films d'exploitation, du coup?
Non, c'était ces cinémas en plein air où les gens, ils allaient en voiture.
Ah, mais alors pourquoi je connecte films d'exploitation et drive-in? Parce que
beaucoup de films d'exploitation étaient diffusés en drive-in.
Voilà, ouais. C'est genre, parce que moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, les gens, ils voyaient des grands films d'auteur dans les drive-in, mais pas du tout, en fait. Ils voyaient des films qui étaient faits avec pas beaucoup de budget.
Souvent, ouais.
Ouais, c'est ça, ok. Ouais, ouais. C'est bon, merci, Ju.
Et en fait, cette musique a été utilisée dans plein de choses. Par exemple, dans des astrodaters, genre l'horoscope de la National Screen Service, mais plein d'autres choses, parce que, en fait... C'est
les astrodaters, c'est des gens qui se datent en fonction de leur signe astrologique.
Je sais pas. ça, c'est seuls les Américains peut-être comprendront.
Oh, si vous avez la réponse, vous nous dites.
Et en fait, c'est parce que c'est une œuvre issue de la série KPM 1000. C'est une collection de musique d'illustration produite par KPM Music, un éditeur britannique renommé dans le domaine de la musique de bibliothèque.
Donc, c'est-à-dire les musiques qui passent dans la bibliothèque?
Non, en fait, les musiques de bibliothèque, c'est des musiques qui sont conçues pour être utilisées dans des productions audiovisuelles sans avoir à négocier les droits d'auteur individuels.
Ah, c'est un peu comme les trucs libres de droit, mais plus cher.
Attention, cela ne veut pas dire que ces musiques sont libres de droit.
Il m'a vu arriver à 100 000 km.
Mais juste qu'en fait, à l'époque, ce système avait simplifié leur achat.
Ah, ok.
Et les musiques n'étaient pas disponibles dans le commerce, mais elles étaient envoyées aux studios de télévision, de cinéma ou de publicité.
Mmh, okay.
Après, plus tard, c'est devenu culte et elles seront même samplées dans des musiques de hip-hop et comme beaucoup d'autres musiques de la série KPM. Donc ces musiques sont souvent instrumentales, composé pour évoquer des ambiances ou des émotions précises et classé par thème, style ou humeur. Et puis maintenant, les vinyles de KPM sont aujourd'hui très prisés par les collectionneurs de vinyles, dont les pochettes sont toutes vertes foncées, encadrées par un cadre blanc, avec écrit KPM en blanc aussi.
Et alors du coup, le Viva la Musica, là, ce qu'on a entendu, c'est, ça fait partie de ces musiques-là.
De quoi ?
Le jingle qu'on a...
La musique qui s'appelle Funky Fanfare, ouais, ça fait partie de ces musiques-là, et c'est une des, une des plus connues. Ouais.
Est-ce qu'on ne se l'écouterait pas, du coup, en entier, avant de passer... C'est quoi que tu nous as préparé, là ? On est au moment de parler des films de la semaine, je crois, non ?
Parler des films qui sont actuellement au cinéma, ouais.
Eh ben, vas-y, est-ce que ça te va si on écoute Funky Fanfare en entier, avant de passer au film de la semaine ?
Ah ben, je suis très chaud.
Ouais. Ah ben, c'est parti. Vous êtes sur Radio Galère 88.4, dans Kixa, qui se transforme en Viva, le cinéma, avec Julien Ciancaleoni. À tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 et vous venez d'entendre Funky Fanfare, donc qui est la musique du générique de cette double émission. C'est très à propos, je trouve, hein, pour ce début d'été. Je me voyais enlever les baskets et mettre les pieds dans le sable là.
Ah ouais, c'est la musique que j'écouterais pour aller à la plage.
Ouais. Ok, alors maintenant on continue donc ce Viva et le cinéma. Tu voulais nous parler des films qui sont en train de sortir au cinéma. Qu'est-ce qu'il faut aller voir ?
Alors je vais pas faire l'inventaire de tous les films qui vont sortir.
Oh non.
Mais j'en ai sélectionné quelques-uns que je vais vous présenter. Déjà il y a The Phoenician Scheme.
Ouais, on avait un doute sur est-ce que ça se prononce Phoenician Scheme ou Scheme.
Ouais.
Je crois que c'est Scheme, mais je suis pas sûr.
Ouais.
Comme tu veux, on s'en fiche, on a que des Français avec nous.
Voilà. De Wes Anderson avec Benicio del Toro que l'on peut voir dans son bain sur l'affiche. Mais il y a aussi Mia Tripleton, jeune actrice montante que l'on a pu voir dans les films comme Shadows ou Les Jardins du Roi. Mais encore, vu qu'on est avec Wes Anderson, y a beaucoup d'acteurs. Donc il y a Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Bill Murray, William Dafoe. Wow. Et Mathieu Amalric, dont le personnage s'appelle Marseille Bob. cela méritait d'être mentionné.
Non. On dirait qu'il y a eu un mauvais bouche à oreille, tu sais, genre de Marseille bébé, et que ça a fini par arriver aux États-Unis en mode Marseille Bob.
C'est ça.
Est-ce que on n'écouterait pas la bande-annonce avant d'en discuter, ou est-ce que tu voulais qu'on discute encore un peu avant d'écouter la bande-annonce ?
Non, non, bah, tu peux envoyer la bande-annonce.
Et ben voilà, donc The Phoenician Scheme, voilà, hop, c'est parti. Si ça veut bien se lancer.
Actuellement, les secouristes s'efforcent de récupérer et d'identifier les restes d'Anatole Jaja Korda. Homme d'affaires international, franc-tireur dans les domaines de l'armement et de l'aviation, l'un des hommes les plus riches d'Europe. Il s'agit du 6e accident d'avion officiel de Korda. Il laisse derrière lui 10 enfants, 9 garçons et une religieuse, sa fille Liesel.
Je t'ai nommée unique héritière de ma succession, dont tu pourrais profiter plutôt tôt que tard.
Pourquoi ? Ça fait 6 ans que nous ne nous sommes pas vus.
J'ai mes raisons.
Quelles sont-elles ?
Mes raisons ? Je ne vais pas le dire. Je dis que je ne vais pas le dire. Tractation de Korda sur les infrastructures phéniciennes terrestres et maritimes. Le projet le plus important de mon existence.
Notre objectif : perturber, paralyser, obstruer, faire obstacle à l'initiative de Korda par tous les moyens.
Prenez les grenades ! Aujourd'hui, ce soir et demain, nous rencontrons tous les géants et prétendons avoir accepté ce qui est convenu. Alors qu'en fait, c'est faux. Impossible.
Vous non, c'est Dieu, 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 Dieu. Tu vas voir. Quel honneur, tu as
c'est pas ma faute.
Alors,
face.
Face.
C'est normal que ce soit là, ça. C'était sous le chariot déjeuner.
Oh là là, qui t'a tiré dessus ?
Des terroristes qui ne sont pas du coin. Tu prendras bien une grenade.
C'est très aimable.
Vous pourriez tomber amoureuse d'un homme comme moi, hypothétiquement.
Vous êtes sous, au bout de 3 bières.
Pourquoi tirez-vous sur mon plafond ?
Ceci est un braquage au nom
non,
de...
Non, ça j'ai compris. Je parle de mon plafond. Espèce de crétin, vous détruisez un magnifique nightclub.
Il y a une chose que tu ne pourras jamais savoir, en tout cas. La vérité.
Je suppose que je suis ému par cette performance absurde.
Je reconnais cet assassin.
Oh non.
Pilule du suicide.
Père Tout-Puissant, bénis cette âme et accueille-la dans ton...
Je suppose que je suis émue par cette performance absurde. Ça, c'est un film de Wes Anderson. Hein. C'est du plan fixe avec 1000 couleurs. Et je trouve que pour une fois, parce qu'on est obligé de diffuser la bande-annonce en VF, puisque, sachez-le, la radio a un engagement où on n'est pas censé pouvoir diffuser du contenu non francophone tout le temps. Et donc, mais je trouve que là, pour le coup, le côté VF rajoute au côté absurde et hyper découpé des dialogues de Wes Anderson. J'apprécie. Limite, ouais. J'ai envie de le voir en anglais et en français. Tu vois. Très, très chouette. Allez voir The Phoenician Scheme. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire sur The Phoenician Scheme ?
C'est plus à propos de Wes Anderson. Mais après, le film, la bande-annonce, j'avoue que ça m'a donné envie de le voir. Mais voilà, Wes Anderson, on aime ou on n'aime pas ?
Moi, j'aime. Ouais. On va pas demander mon avis, mais je le donne quand même.
Personnellement, moi j'aimais beaucoup.
Ah.
Et je trouve que Moonrise Kingdom, c'est un très grand film sur l'enfance qui m'a beaucoup marqué. Et j'aimais aussi beaucoup ses films d'avant. Et après, depuis The Grand Budapest Hotel, j'ai plus de mal. C'est vrai que son style est très froid, baroque, et il en a fait une marque de fabrique. Et c'est surtout cela qui divise les spectateurs, j'ai l'impression.
Ah ouais ? Mais toi, justement, c'est genre ça t'a écœuré, c'est ça ?
Non, moi, je trouve que ça, c'est... En fait, le fait qu'il ait créé son propre style, c'est pas un problème. Au contraire, je pense que c'est même une force. Mais c'est pas ça le problème. Je me verrais mal critiquer ça, en fait. C'est plus que certains films m'ont laissé de marbre et j'ai pas ressenti grand-chose... Je m'attache pas au personnage. C'est surtout ça le problème, en fait.
C'est tellement performant en termes de mise en scène, de forme, de marque de fabrique, que finalement, ça en devient un peu froid, quoi.
Et c'est ça. Et du coup, il manque l'émotion. Après, Bon, après, voilà, c'est que mon avis. Après, par contre, j'ai adoré ces deux films en stop motion. Fantastic Mr. Fox.
Ah, c'est Wes Anderson qui a fait ça aussi.
Ouais, et L'île aux chiens.
Ah, je l'ai pas vu.
Et quand il fait de l'animation, je trouve que c'est différent parce que justement, c'est de l'animation. Et je sais pas, il se permet d'être plus émotionnel, justement, bizarrement.
Ah, bah oui, parce que du coup, il pense aux enfants quoi, quand il fabrique. Quoi, tout simplement. Ouais. Hein.
Mais toi, t'en penses quoi vraiment de Wes Anderson ?
Bah, moi, j'aime beaucoup Wes Anderson. En fait, je sais pas, ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais en fait, c'est un réalisateur que je relis beaucoup à Elias Ouleman, qui est un réalisateur qui m'a beaucoup marqué, que j'ai découvert quand j'avais 16 ans, avec un film qui s'appelle Le Temps qu'il reste. Et en fait, Elias Ouleman, dans Le Temps qu'il reste, il prend les carnets de jeunesse de son père, qui assistait à la chute de Nazareth. Et en fait, il fait un portrait ça m'ennuie de parler de Israël-Palestine sur ce film-là, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, en parlant de la jeunesse de son père, de son enfance à lui, après Elias Ouleman, il s'en va à 19 ans aux États-Unis étudier le cinéma.
C'est un Israélien.
Ouais. Et je sais plus d'ailleurs justement parce que je crois qu'il y a un twist. Je crois que c'est un juif arabe.
Ouais.
Je crois qu'il y a un délire comme ça. Genre, je sais plus exactement. Oui, il est juif, c'est sa famille juive, je crois. Mais je crois qu'il est en Palestine, justement. Il y a une espèce de croisement comme ça. Alors, je sais plus dans quel sens, dans son identité. Et en fait, comment dire. Donc, le film raconte la jeunesse de son père, sa jeunesse à lui, jusqu'à ses 19 ans. Et puis ensuite, il se barre aux États-Unis. On voit pas son passage aux États-Unis. Et il revient à peut-être 40 ans. Il montre sa famille, son pays à ce moment-là. Donc Le Temps qu'il reste, il le fait, je crois, début des années 2000, hein, il me semble. Quoique non, je l'ai vu quand il est sorti, donc ça devait être 2007-2010, hein, un truc comme ça. Et en fait, c'était une grande claque de cinéma pour moi parce que avant Le Temps qu'il reste, pour moi, le Israël-Palestine en termes d'images, c'était des images journalistiques et c'était des champs de ruines, littéralement. Genre vraiment, on nous montrait la Palestine en ruines. D'ailleurs, on nous montrait assez peu Israël, les villes d'Israël, et beaucoup plus les Palestiniens qui luttaient pour rester en vie. Et en fait, du coup, pour moi, notamment le côté Palestine, c'était un peuple sans culture, en fait, finalement, en termes d'imagerie. C'est-à-dire que c'était des gens qui traînaient dans des gravats. Et lui, il arrive avec Le Temps qu'il reste. Et en fait, il fait cette fresque des tensions et de la domination israélienne sur le peuple palestinien sur plusieurs générations. Mais en fait, il le filme façon Buster Keaton. Alors, il n'y a pas les cascades, mais en fait, il se joue lui-même. Et en fait, il joue cette espèce de Buster Keaton qui est un espèce de clown silencieux. Et tout est en plan fixe. Chaque plan est un tableau. C'est magnifique. Et surtout, c'est hyper drôle. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à voir un film qui soit autant comique sur une tranche d'histoire qui est aussi tragique, en fait. Donc... Et donc ça m'a vraiment foutu une claque où je savais pas qu'on avait le droit de faire ça avec le cinéma. Et les deux réals, je les mets beaucoup, je les relis beaucoup. Sur la forme, parce que c'est du plan fixe, parce que c'est des tableaux, et parce qu'il y a une espèce d'absurdité. C'est-à-dire que par exemple, une des scènes qui m'a le plus marqué du temps qu'il reste, d'Elias Ouleman, c'est il est dans une banlieue pavillonnaire, donc plutôt riche, plutôt classe moyenne aisée, et en fait il y a un gars qui sort sa poubelle et qui est au téléphone, et donc et il discute avec son pote et lui dit oh là là, faut que je te fasse écouter une musique, j'ai découvert un DJ qui est super cool, et il a une conversation comme ça, et en fait tu sais il fait les 100 pas devant chez lui, parce que c'est un peu comme dans des moments où, je sais pas, psychologiquement t'as besoin de raccrocher avant de rentrer chez toi, tu vois. Et donc il fait les 100 pas comme ça devant chez lui, et en fait dans sa rue il y a un tank militaire israélien qui en fait le met en joue avec le canon du tank, et en fait t'as le tank qui le suit comme ça en faisant ses allers-retours, et t'as Elias Ouleman dont le visage dépasse d'un mur et qui assiste à ça et qui a un peu peur, quoi, parce que lui il a pas l'habitude. Et en fait c'est tout à fait à l'image du reste du film, où en fait c'est hyper absurde, c'est hyper drôle, et il utilise le côté burlesque, le côté absurde dans les dialogues, dans les mises en scène, pour montrer l'absurdité de ce conflit-là, en fait, de cette domination-là. Donc voilà, déjà des grosses pensées pour le génocide et pour les personnes qui sont en train de lutter pour leur liberté en Palestine, évidemment. Et puis au-delà de ça, Voilà, et c'est vrai que c'est deux réels que je mets beaucoup en lien. Alors Wes Anderson est beaucoup plus obsessionnel des couleurs. Il a des couleurs beaucoup plus franches comparées à Elia Suleiman. Mais j'aime bien cette cinématographie-là. Je peux autant aimer des trucs qui sont très montés, très découpés, mais j'aime bien ce côté très tableau, très absurde et très comique, quoi. Je pense que...
Et l'émotion marche, du coup.
Et l'émotion marche du feu de Dieu. Le film d'Elia Suleiman, par exemple, se termine sur une espèce de course-poursuite. C'est un plan fixe où tu vois le premier étage vitré, un couloir vitré d'un hôpital. Et en fait, t'as les urgentistes qui courent avec une civière et un corps dessus, enfin un malade, un patient, et qui traversent le truc et qui sont poursuivis par la police ou l'armée. Et en fait, en hors-champ, l'armée les récupère le corps et ramène. Et en fait, c'est hyper burlesque parce qu'on a l'impression de voir le voleur et la souris. C'est vraiment du cartoon pur. Sauf qu'en fait, on est en train de parler de militaires qui sont en train d'essayer de voler un patient parce que la domination politique est plus importante que soigner un être humain qui est en galère, quoi. Donc c'est typique ça, en fait, que j'adore. Et donc effectivement, Wes Anderson, j'aime bien. Pour moi, c'est asseyez-vous les enfants, on va vous raconter un conte, quoi. Voilà. Mais après, ouais, bon, voilà, j'ai beaucoup déblatéré.
Non, mais j'ai très envie de voir parce que je connais pas Elia Suleiman. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'ai envie de voir. C'est sur ma liste.
Ah, c'est exceptionnel. Ouais. C'est vraiment. Je l'ai montré à un ami qui s'appelle Dario De La Noche, qui est un rappeur de Marseille qui vient souvent dans cette émission. Et en fait, quand l'année dernière, il a sorti son projet Atlantide. Et en fait, le film l'a tellement marqué qu'il a utilisé les scènes du film pour faire ce qu'on appelle un mood board, pour faire en fait le dossier de direction artistique pour faire ses clips après. Et donc, voilà. Et donc, et notamment une scène où t'as l'armée qui vient surveiller des pêcheurs de nuit. Et c'est hyper absurde parce que les gars, ils sont en mode, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On est en train de pêcher, il n'y a rien d'extraordinaire, etc. Mais exceptionnel. Elia Suleiman, allez voir ses films, c'est fou, c'est fou. C'est trop beau, c'est drôle. Voilà. Et pourtant, ça ne devrait pas l'être, quoi.
Et en plus, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'un peu plus tard, on va parler du cinéma burlesque un petit peu.
Allez, voilà, tout est lié.
On passe au film suivant ?
Allez, on passe au film suivant. C'était Life of Chuck, je crois. Hein.
Life of Chuck de Mike Flanagan. Donc, c'est un film avec Tom Hiddleston et Mark Hamill, avec les cheveux blancs. Donc, pour celles et ceux qui se demandent qui est Mark Hamill, c'est Luke Skywalker dans Star Wars.
Et Tom Hiddleston, c'est Loki
dans Marvel, ouais. Donc, si tu veux mettre la bande-annonce.
Tout à fait. Allez, c'est parti pour la bande-annonce de Life of Chuck, qui est disponible en ce moment au cinéma. Ça, hein, oui, qui va sortir ?
Il va sortir, ouais.
Ah, ok, qui va sortir. Life of Chuck sur Radio Galère 88.4.
Si tu lèves les yeux vers le ciel étoilé, il va t'apprendre tant de choses sur ton avenir. Il ne te mentira pas. Il est d'une grande pureté. Ce que tu verras dépassera peut-être ce que tu voulais savoir. Mais tant qu'on a du cœur, l'espoir demeure. Et toi, tu as un grand cœur.
Le monde, Chuck. Tout ce que tu aimes. Tout ce que tu vois. Au fil des années, ce monde deviendra plus grand, plus lumineux. Plus riche. Plus complexe. L'habitera tout entier. Il y a tout un univers en toi. N'est-ce pas merveilleux?
La bande-annonce, elle sonne cinéma de ouf. C'est vraiment tin. Et d'ailleurs, c'est sur. Je crois que Life of Chuck se passe dans une famille juive, il me semble. de ce qu'on a vu.
Ça, je sais pas.
Bah, en tout cas, le petit qu'on a vu, c'est Tom Hiddleston enfant, c'est ça ?
Oui.
Ouais, c'est ça. Il avait une kippa. Bah, du coup, voilà, parce qu'on a parlé aussi du génocide palestinien. Évidemment, qu'on soutient la communauté juive qui subit beaucoup de discrimination et de violences antisémites. Il y a une vraie récrudescence des violences antisémites. Donc, on leur donne de la force à eux aussi. Voilà. Donc voilà. Et donc, Life of Chuck, il ne parle absolument pas des violences antisémites, mais qui parle des juifs quand ils sont heureux. Et donc, c'est chouette.
Mais en fait, il s'agit d'une énième adaptation de Stephen King qui raconte en 3 chapitres la vie d'un homme ordinaire nommé Charles Krantz, alias Chuck, en commençant par sa mort à 39 ans et se dirigeant vers son enfance dans une maison prétendument hantée.
Oh waouh.
Donc
très Stephen King.
Très Stephen King, mais sans être dans le film d'horreur.
Mais d'ailleurs, Stephen King, au bout d'un moment, il a écrit combien de trucs dans sa vie ? Parce que j'ai l'impression que c'est inépuisable, en fait. Enfin,
c'est... Ouais, ouais, ouais.
C'est trop, voilà. C'est trop.
C'est beaucoup, ouais. Et du coup, c'est la deuxième adaptation de King par Flanagan, ce réalisateur, car il avait déjà réalisé Doctor Sleep, la suite de Shining, que personnellement, j'avais détesté. Je trouve que ce film, voire même ce livre, ne devrait même pas exister.
Ah waouh, je veux savoir pourquoi.
Bah, je pense que Stephen King, il est déjà assez riche. Et il a déjà assez fait du caca avec Shining, en l'adaptant lui-même pour la télévision, avoir critiqué le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Kubrick.
Oh waouh.
Donc, bref.
Après, ceci dit, il y a conflit d'intérêts. Hein. Moi, Kubrick, je déteste sa cinématographie. Alors j'adore c'est vraiment, ça me pose problème ce réal, parce que j'adore quand il y a un analyste du cinéma qui me fait un cours magistral sur Kubrick. Ça j'adore, vraiment c'est super, parce que c'est truffé de très bonnes, en fait tout est pensé chez Kubrick, chaque plan, chaque cadrage et tout ça. C'est juste qu'à chaque fois il fait des choix qui moi me plaisent pas. Genre Shining notamment, Shining c'est le mieux. Shining, c'est celui que j'aime le plus de Kubrick, mais qui me déçoit quand même beaucoup. Parce que je trouve que... moi, j'aime le flou de profondeur de champ. J'aime les couleurs. Je trouve que des films sont très ternes. Et, et je trouve qu'il n'y a pas le côté charmed. Tu vois, moi, j'aime bien Harry Potter, charmed. J'aime quand c'est gourmand, tu vois. Et je trouve que Kubrick n'a pas une cinématographie gourmande. Il a une cinématographie très froide. Le fait qu'on a su par la suite que c'est quelqu'un qui torturait son équipe et qui faisait ce qu'on appelle du harcèlement moral, qui est complètement reconnu en tant que délit par les prud'hommes, va dans mon sens. Parce que voilà, tu n'es pas censé... les acteurs peuvent te donner de leur créativité sans que tu aies besoin de sucer leur énergie vitale.
Tout à fait.
Et par exemple, Barry Lyndon, le pire. Je déteste. Vraiment, c'est... Je sais pas. Il y a des zooms dedans. Je suis pas quelqu'un qui aime les zooms. Voilà.
Okay.
Donc Kubrick, ouais, c'est pas trop mon délire, mais j'aime bien qu'on analyse Kubrick pour moi. Mais on peut pas dire que c'est des mauvais films, surtout
non,
quand tu n'en fais pas.
Après, on aime ou on n'aime pas.
Voilà. Et moi, j'aime pas.
Pour revenir à Life of Chuck, en fait, c'est intéressant que ce soit lui qui fasse ça, Mike Flanagan, parce qu'il s'est imposé en fait comme le réalisateur parfait pour adapter du Stephen King en ayant réalisé la très réussite saison 1 de The Hunting of Hill House.
Oh, j'ai adoré.
Sur Netflix.
Tout à fait. À lui, j'aime beaucoup sa cinématographie.
Voilà. Et qui n'est pas adapté de Stephen King, mais qui en est très inspiré.
Ah ouais,
quand même.
Grave.
Et c'est pour ça qu'après, de manière logique, il se met à réaliser des adaptations de Stephen King. Alors, comme pour Wes Anderson, Stephen King et ses adaptations au cinéma, vu qu'il y en a beaucoup, divisent pas mal les gens. C'est quand même très populaire, mais il y a plein de gens aussi qui n'aiment pas Stephen King, qui trouve que c'est simple ou même c'est très inégal. Du coup, il fait tellement de choses de toute façon que tu peux pas faire que des bons trucs. Mais on peut citer quelques très bons films adaptés de Stephen King. Bon, déjà, on a cité Shining.
Tout à fait.
Mais moi, j'ai encore envie de citer Misery, Carrie au bal du diable, Christine.
Ouais, je savais pas que Carrie c'était adapté de King.
Ouais.
Vraiment, il fait que ça d'écrire des bouquins.
Et là, on est principalement dans du film d'horreur.
Tout à fait.
Mais il a pas fait que ça, parce qu'il y a aussi Les Évadés, La Ligne Verte, deux grands films de prison que j'adore. Et mon préféré, c'est Stand By Me. C'est un super beau film sur l'enfance avec le défunt frère de Joaquin, River Phoenix.
Ah ouais.
Qui est,
il est mort comment?
Drogue.
Oh mince.
Drogue, je crois. Hein.
Voilà, les enfants, ne faites pas de show business. Soyez comptable et vous vivrez vieux.
Voilà. et du coup, ce film m'intéresse quand même. Ça m'a donné envie de le voir quand même. Il sortira au cinéma le 11 juin. Il va sortir en avant-première aux Variétés à Marseille le vendredi 6 juin à 19h30. Et sera une séance présentée par Guy Astic.
Yeah, yeah.
Tu connais Guy Astic ?
Oui, je connais très bien Guy Astic. Enfin, très bien, on dirait que j'ai élevé les poules avec lui. En fait, Guy Astic, c'était mon prof d'audiovisuel au lycée Paul Cézanne. C'est quelqu'un qui est très pluriel, Guy Astic. Il a une société d'édition. Si vous vous intéressez au cinéma, je vous conseille d'aller lire Simulacre, qui est un magazine qu'il écrit. Enfin, un magazine. Ça ressemble à un magazine, mais je sais pas s'il en sort régulièrement comme un magazine, mais qui est très très chouette. Et c'est le président de l'association du Festival Tout Court, que je vous conseille aussi. C'est un festival de courts-métrages à Aix-en-Provence qui se déroule la première semaine de décembre et qui est un festival de courts-métrages qui est absolument exceptionnel. Et donc, si vous n'avez pas le temps d'aller le voir en journée, puisqu'il y a des films en compétition, je vous conseille d'aller regarder le vendredi, donc le premier vendredi de la semaine de décembre. Le festival se termine sur la nuit du court-métrage, qui est exceptionnelle. C'est-à-dire que vous rentrez à 22h30 dans le cinéma et vous en ressortrez à 6h du matin. Et tous les ans, il y a un thème. Donc, autant vous dire qu'ado, quand j'ai découvert, je crois que la première nuit du court-métrage que j'ai fait, c'était sur les super-héros. Exceptionnel, court-métrage de super-héros. Et Guy Astic, du coup, voilà, c'est quelqu'un qui est hyper pédagogue, c'est vraiment un gentil.
Il écrit aussi.
Et il écrit, oui, il écrit sur le cinéma, il fait beaucoup d'analyses, il est professeur au lycée, il est professeur de lettres aussi, c'est grâce à lui que j'ai eu mon bac de lettres, malgré mon TDAH non diagnostiqué, donc big up à lui pour ça, parce que vraiment, c'était pas gagné. Et puis c'est un vrai gentil, Guy Astic, c'est vraiment un vrai gentil, ça fait partie des gens qui ont une belle âme, quoi, et qui sont extrêmement intéressants. Et donc moi j'ai eu la chance donc d'apprendre le cinéma avec lui au tout début, et c'est quelqu'un qui a un grand amour pour le cinéma d'horreur notamment. Et donc c'était très particulier parce que moi quand j'étais au cinéma, j'ai eu mon bac je crois en 2011, et donc dans les années 2010, déjà encore aujourd'hui c'est difficile pour les Français, enfin pas pour le public mais pour les producteurs, d'assumer que les Français regardent du film de genre. On en regarde tout le temps, mais on a du mal à en faire, on a du mal à le distribuer, on a du mal à le mettre en valeur, et on a du mal à le fabriquer. Et donc encore aujourd'hui c'est en train de changer, et je pense qu'il y a des producteurs plutôt jeunes là, qui ont la quarantaine, qui commencent à comprendre ça et passer la seconde pour les fabriquer. Mais en 2007, 2009, quoi, avoir la chance d'avoir un professeur qui apprend le cinéma par le cinéma d'horreur, c'était une chance exceptionnelle, parce que c'était prendre au sérieux un genre qui n'était pas pris au sérieux. Et c'est d'autant plus, et maintenant je me retrouve à repenser à ces cours-là aujourd'hui, puisque il se trouve que moi à l'époque j'aimais pas du tout le cinéma d'horreur, et que c'est venu vraiment pendant ma vingtaine, et maintenant j'adore. Donc voilà, Guy Astic, je vous conseille d'aller voir les séances qui sont présentées par Monsieur Astic, parce que pour moi c'est Monsieur Astic, parce que ça, c'est toujours très intéressant, très pertinent, c'est toujours dans une ambiance, il est très drôle aussi. Et puis suivez son travail d'écrivain, suivez son travail d'événementiel. Vraiment, si vous voyez Guy Astic écrit quelque part, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un humain de qualité, un humain de très grande qualité. Voilà.
J'ai l'impression que Life of Chuck va peut-être flirter avec le film d'horreur, mais que ça en est pas un. Du coup,
Ouais, mais il est trop gourmand. Il va pas s'arrêter. Il peut pas s'arrêter qu'au film d'horreur. Il est trop gourmand.
Et oui.
Il va kiffer tout. Mais j'ai envie de l'appeler juste pour avoir une conversation sur des réals qui sont justement à la frontière du film d'horreur.
J'adore,
mais je pense que je vais venir
aussi.
Au 6 juin du coup pour pour lui claquer la bise. Voilà.
Ouais, je me sers souvent d'une anecdote de Roger Corman, un réalisateur des années 60.
Que tu aimes beaucoup.
Que j'aime beaucoup. Et qui a dit un truc très intéressant, je trouve, sur le film d'horreur, pour défendre le film d'horreur. Et, en gros, il dit que c'est en nous depuis la préhistoire.
Ouais.
Parce que les hommes de la préhistoire dessinaient des mammouths dans les caves et qu'en fait les mammouths c'était leur ennemi, c'était des créatures qui très flippantes.
Bah,
et
oui.
Du coup ils dessinaient ça dans les caves, donc c'est comme si c'était leur film d'horreur de l'époque.
Eh ben oui, bien sûr. Et puis d'ailleurs j'ai lu un article sur un média qui est hyper vérifié avec que des vraies sources, qui s'appelle Instagram, et qui expliquait que il y avait un petit article sur le dragon dans l'histoire humaine. Et en fait on se rend compte que le dragon existe partout dans toutes les cultures, même dans des cultures qui n'ont pas communiquer entre elles. Et donc en fait on a une théorie qui dit qu'on aurait peur du dragon de façon intrinsèque dans nos gènes presque, parce qu'en fait à force de voir des gros reptiles comme des crocodiles qui peuvent nous bouffer, des gros chats, des grandes bestioles, etc., et ben en fait quand tu les mélanges tous, ça finit par faire un dragon. Et c'est probablement pour ça qu'on a la mythologie du dragon dans toutes les cultures humaines.
Même
c'est
en bien Provence.
Pour ça, même en Provence, avec
La Tarasque
dont tu viendras nous parler un jour dans cette émission.
Ouais, et puis on essaye de développer un film sur la Tarasque
avec Christophe Oliver, qui j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez nous sortir. Mais effectivement, donc la Tarasque qui est je crois la seule, si c'est pas la seule, en Provence on n'a pas trop de magie dans notre tradition, et la Tarasque en fait partie, est un des seules créatures mythologiques magiques des légendes provençales. Et voilà. Et par contre, sur ce que tu disais du film d'horreur pour le défendre, moi je pense vraiment que les deux genres les plus difficiles à faire au cinéma, c'est l'horreur et la comédie. La comédie, parce qu'en fait tu peux faire un film qui est impeccable et clean sur tous les aspects, sur la fabrication surtout, mais en fait il se trouve que c'est pas l'humour de ton public. Genre vraiment, il y a vraiment un délire que ta blague elle peut être hyper bien construite, si c'est pas l'humour des gens qui les regardent le film, ça marchera pas. Alors que le film d'horreur, il est difficile parce qu'en fait ça demande une maîtrise extrême des codes du cinéma, du langage cinématographique, parce que si tu laisses ton plan durer un peu trop longtemps, si tu changes pas d'axe, si tu mets ta caméra un peu trop décalée, et ben en fait là où tu voulais faire peur, tu fais rire. Et donc c'est ça, tu vas de la peur au ridicule extrêmement rapidement, et c'est super difficile de faire du film d'horreur. Ouais. Donc moi je trouve que le film d'horreur c'est un genre pour cinéphile, là où le drame c'est facile. C'est-à-dire que tu peux filmer n'importe comment. À partir du moment où tu montres une maman à qui on arrache son enfant, tu peux le filmer en contre-plongée, en plan fixe ou en plan en mouvement, tu vas chialer. Parce que c'est horrible de un abandon d'enfant, en fait. Enfin,
ouais, on dit souvent que c'est plus facile de faire pleurer que rire.
Ah ouais, complètement. Donc ouais, pour moi, moi c'est vraiment l'amour du cinéma qui m'a fait arriver au film d'horreur. Alors qu'au départ, j'étais un peu flippée, quoi. C'est-à-dire que je suis tellement en empathie que si tu me demandes d'avoir peur, j'ai peur, et c'était trop dur pour moi. Après, je suis toujours pas passée au film gore. Hein. Là, je peux pas.
Oui, non, c'est trop pour moi.
Voilà. Bref, voilà, on va pas déblatérer sur. On n'est pas là que pour m'écouter, même si j'ai une voix de déesse. Si vous voulez nous parler de quoi
Alors pour la suite, puisque du coup je suis allé voir un peu sur le programme des variétés, le cinéma sur la Canebière à Marseille, que j'aime beaucoup. Et c'est un cinéma qui repasse souvent des vieux films.
Ok.
Ce que j'adore.
Évidemment.
Voilà. Et du coup, sachez que vous pouvez avoir la chance de découvrir ou redécouvrir sur grand écran Le Dictateur, non pas de Sacha Baron Cohen, mais le film de 1940, premier film parlant de Charles Spencer Chaplin,
oh,
dit
wow.
Charlie Chaplin.
Il nous a sorti le nom en entier.
Qui restera toujours pour moi le plus grand réalisateur de l'histoire du cinéma.
Ah ouais ?
Oui.
Ah ouais ?
Oui.
Ah ouais ? Excuse-moi, une troisième fois ? Ah ouais ?
Ouais. Je pense.
Ah ouais?
Oui, oui. Tout simplement. Après, c'est pour moi. Hein.
Non, non, mais oui. Non, mais j'entends. Mais en fait, ce qui me. Ça me questionne parce que je me disais que. Tu vois, il y a des temporalités dans les médiums. C'est-à-dire que, par exemple, je trouve que la peinture, ça fait partie d'un médium qui est le plus fait pour durer dans le temps. Et encore que, je trouve que des fois, on le fait durer alors qu'on ne devrait pas. Par exemple, le déjeuner sur l'herbe, les gens prennent ça comme un classique. Mais en fait, c'est vraiment que pour faire de la branlette intellectuelle parce que personne n'est au courant qu'on est en train de représenter des prostituées. Mmh. Donc, en fait, personne ne le dit. Et il y a que les gens qui sont vraiment dans l'histoire de l'art qui comprennent quelle est la différence entre le Titien et Manet. Et voilà. Mais par contre, c'est vrai que ça a vocation à rester dans le temps. La musique, ça m'étonne pas non plus qu'on écoute de la musique qui a 200 ans, 400 ans, aucun problème. Par contre, le cinéma, je trouve que c'est un art qui est fait pour être éphémère. Parce que si tu t'amuses à, par exemple, faire un dialogue qui est très ancré dans les années 2010, évidemment que des adolescents de 2080 vont pas, enfin ça va les sortir du film, tu vois. C'est un art qui est beaucoup plus éphémère, donc c'est pour ça que la question de le plus grand auteur du cinéma dans un art, dans un médium qui pour moi est fait pour être éphémère, elle me questionne beaucoup, quoi.
Mais justement, en fait, moi je trouve que Le Dictateur, c'est intéressant de le revoir aujourd'hui parce que il peut faire écho avec l'actualité, en fait.
Pourquoi tu dis ça ? On est dans un monde merveilleux, il n'y a pas de guerre, tout le monde s'entend très bien sur cette planète, je ne comprends pas ce que tu dis.
Bah, je n'ai même pas besoin de préciser. En fait. comme je le disais, en fait, le film est sorti en 1940, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et il a été fabriqué juste avant le début de la guerre, et c'est le premier film parlant de Chaplin. Détail qui n'est pas anodin lorsque l'on sait que le cinéma parlant est arrivé en 1927. Ah ouais. Avec le chanteur de jazz d'Alan Crossland. Chaplin...
Et encore que chanteur de jazz, c'est qu'une séquence. Hein. C'est pas tout le film, hein. C'est qu'une seule séquence. Et, le rôle lead de la femme, tu sens que l'actrice, elle est hyper gênée. On dirait que j'ai demandé à mon cousin de filmer, de venir sur le tournage. Quoi. Elle est pas du tout à l'aise. Quoi.
Mais c'est le premier film parlant de l'histoire du cinéma, 1927. Et en fait, Chaplin ne voulait pas faire de parlant. Car il considérait qu'il n'avait pas besoin de paroles pour faire comprendre ce qu'il veut dire. Ce qui est, je trouve, en fait, la base du cinéma, la narration par l'image. Ce qui n'est du coup pas le cas du Dictateur, dans lequel Chaplin parodie Hitler, qui lui avait quand même volé sa moustache, et choisit de parler pour la première fois dans un film pour nous offrir un véritable témoignage d'amour pour l'homme et la liberté, en même temps qu'un pamphlet exemplaire contre toute forme de fascisme. Donc c'est important de le revoir aujourd'hui.
Mais d'ailleurs, c'est son premier film parlant, hein, Chaplin.
C'est son premier film parlant.
Et c'est pas du tout gênant. C'est-à-dire que quand tu regardes aujourd'hui Le Dictateur, à aucun moment tu te dis « Oh là là, ça bégaye, tu vois, ça bégaye un petit peu. » On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Hein.
Et même, il utilise justement le son pour des choses qu'il n'aurait pas pu faire à l'image.
Tout à fait.
Et voilà, moi, si je trouve que c'est l'un des plus grands réalisateurs du cinéma, c'est juste parce qu'il a inventé le cinéma humaniste pour moi.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que...
Tu veux dire le cinéma militant ?
Tu ressens toute l'humanité, en fait, quand tu vois l'humanité de Chaplin, tu vois un film de Charlie Chaplin, en fait.
Oui, bien sûr.
Et en fait, il n'y a pas besoin de plus. C'est juste ça, quoi. Et bah, par exemple, je vous propose d'écouter le discours de fin du Dictateur qu'on connaît tous sûrement, fait par le personnage du barbier sous l'apparence d'Inkel, le personnage parodiant Hitler, mais qui est aussi joué par Chaplin. Il joue deux rôles dans le film.
Ah, ok. Et bah, c'est parti pour le discours de fin du film Le Dictateur de Charlie Chaplin. Vous êtes sur Radio Galère 88.4. Hop, si je me trompe pas de morceau, c'est mieux.
Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes. A barricadé le monde avec la haine. Nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'Évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur, vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir, il faut tous nous unir, il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse, la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!
C'était le discours de fin du film Le Dictateur, doublé magnifiquement par Roger Carrel, qui est un doubleur français que j'aime beaucoup, qui a doublé tellement de choses, alors, dont Hercule Poirot, qui est une œuvre très chère à mon cœur.
Et Astérix.
Et Astérix dans Astérix et Obélix.
Dessins animés.
Les dessins animés. Et voilà, ce discours-là, il a été écrit à 85 ans par un Américain.
C'est un Anglais en fait.
C'est UK, oui, mais c'est aux États-Unis qu'il a fait Le Dictateur, non ?
Oui, oui.
C'est maison de production hollywoodienne, non ?
Oui, oui, mais voilà. C'est pas un Américain.
C'est vrai que c'est pas un Américain. Bon, voilà, mais bon, les Américains ont été un jour capables de produire ce genre de film. Et voilà, c'est un très très beau discours qui a 85 ans aujourd'hui et qui résonne mot pour mot. Voilà, faisons la révolution, chers amoureux.
Battons-nous. Ensuite, je continue sur le prochain film.
Oui.
Alors, toujours aux variétés à Marseille, vous pouvez avoir la chance d'aller voir Le Salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot. Et lui, c'est mon réalisateur français préféré.
Oh, wow.
Alors, Le Salaire de la peur, si tu veux, tu peux mettre un petit bout de bande-annonce.
Ok.
Nous sommes trop cultivés.
Une simple goutte de ce liquide. Quatre hommes vont jouer leur vie au volant de ces camions. Ils atteindront les limites du danger, du courage et de la peur. Mario.
Jo.
Monsieur Jo.
Et si les flics veulent me mettre ça sur le dos, c'est une note à mes chances. Inze Baba.
Luigi.
Champagne. Spookman.
Bimba.
Si je dois faire un Maccabée, autant que ce soit un Maccabée présentable.
Igualito. ¿Verdad que se parece?
Con jarabe de limón, vainilla, café.
Une ville d'Amérique du Sud écrasée par le soleil.
Le salaire de la peur. J'arrête la bande-annonce ici, puisqu'après, c'est uniquement des bruits et du texte. Donc, allez voir la bande-annonce du salaire de la peur, qui est très nouvelle vague.
Pour résumer, quatre hommes acceptent de véhiculer au péril de leur vie un chargement de nitroglycérine sur 500 km de route défoncée. L'énorme prime de ce quitte ou double périlleux est le seul moyen de quitter leur village d'Amérique du Sud dans lequel ils ont échoué. Donc en gros, t'as des mecs qui conduisent un gros camion qui peut exploser à tout moment. Donc c'est bien Tandax du string. Et c'est un film de 1953 quand même.
Hein. J'aime bien parce que même ta présentation, elle fait très bande-annonce nouvelle vague, mais avec des mots d'aujourd'hui, quoi.
Et oui. Donc voilà, c'est un film qui m'a marqué parce que pour un film de 1953, je l'ai trouvé. C'est un des films qui m'a fait le plus stresser de ma vie.
Ouais, c'est
ce qui m'a le plus tendu, en fait.
Oh, wow. Pourtant, t'es pas du tout quelqu'un qui se tend facilement.
Regarde Le salaire de la peur, qui a un super remake qui s'appelle...
De Stephen King.
Non, c'est de William Friedkin, le réalisateur de L'Exorciste.
Okay.
C'est un film qui s'appelle The Sorcerer, qui fait partie du coup des bons remakes, qui est tout aussi tendax du string. Je vous conseille de regarder d'abord Le salaire de la peur, puis ensuite The Sorcerer. Voilà, et dans The Sorcerer, c'est trois personnages et pas quatre. Et du coup, t'as un Français, un Américain et un Palestinien.
Ok.
Et vraiment, il apporte quelque chose de nouveau.
On dirait le début d'une blague raciste de quand on était petit.
Oui, mais c'est pas du tout une blague. Et le film est incroyable, il faut le voir vraiment. Et ça fait partie avec Apocalypse Now et je sais plus quel film, Aguirre et la colère de Dieu, des films qui ont été les plus compliqués à tourner, vu que c'est des tournages dans la jungle en fait.
Oh waouh!
Voilà. Je pense que c'est bon pour les films qui sont au cinéma, donc Okay. Allez au cinéma.
Alors là, les films que tu dis qui sont rediffusés, c'est aux variétés, hein, d'accord.
Là, je me suis concentré vraiment sur les variétés.
Voilà, les variétés au centre-ville de Marseille, je crois que c'est dans le premier arrondissement.
C'est ça,
voilà, sur la Canebière, voilà, à côté de la caserne de pompiers, donc allez-y, c'est un très bon cinéma. Comment est-ce qu'on finit cette émission, mon cher Jus?
Alors, nous avons perdu un grand acteur récemment. Et je voulais lui rendre hommage à notre cher Val Kilmer, qui est mort un 1er avril. Du coup, j'ai cru que c'était une blague sur le coup. Mais je savais qu'il était déjà atteint d'un grave cancer de la gorge. J'avais vu, et en fait, il a réalisé un documentaire sur sa vie, qui est un peu son film posthume, quoi. Je vais mourir. Oh, wow. J'ai pas pu le voir en entier, tellement c'était dur à voir.
Ouais.
Mais j'adore cet acteur. Voilà, c'est Val Kilmer, on le connaît, on peut citer Top Secret des Zaz, Willow de Ron Howard, It de Michael Mann, Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black. Il est bien sûr connu aussi pour Top Gun de Tony Scott, qui avait réalisé aussi True Romance, dans lequel Val Kilmer joue Elvis sans que l'on voit son visage. Uh-huh. Donc pour ceux qui ne savaient pas, petite anecdote. Et enfin, bien sûr... le film The Doors de Oliver Stone, dans lequel Val incarne à merveille Jim Morrison. C'est un de ses plus grands rôles. Et c'est, du coup, j'ai vu dans son documentaire que c'est un rôle qu'il voulait absolument faire. Il a tout fait pour le faire. Et il a enregistré lui-même une musique des Doors qu'il chante lui-même et qu'il a envoyé au réalisateur. Et il a obtenu le rôle.
Oh là
comme
là,
ça.
C'est beau!
Parce que oui, en plus d'avoir un talent incontestable pour le jeu et d'être un être humain exceptionnellement drôle, Val avait aussi un talent pour le chant. Voilà. Nous allons écouter Straighten Out the Rug, chanté par Val Kilmer, musique entendue dans le film qui parodie les films d'espionnage des années 60, Top Secret, Donc, le film raconte l'histoire de Nick Rivers, une star américaine du rock and roll, qui est appelée à participer à un festival culturel à Berlin-Est. Ce rassemblement est en fait l'instrument d'un complot fomenté par un groupe de néo-nazis nostalgiques. Nick participe à sa façon à la résistance qui s'organise. Tout de suite, Struggle Up the Rug, Val Kilmer.
Hop là, je me suis trompée de morceau, c'est celui-là. Well, get out on that floor and hit that rug tonight. Well, get out on that floor and hit that rug tonight. We're gonna shake that rug till the early, early light. I say to romp and stomp and slide like the devil on the thread. Yeah. I say to romp and stomp and slide like the devil on the thread. Well, stand back, baby, I believe I'm gonna free my edge. You gotta straighten the rug. Yeah, straighten the rug. You gotta give it a push. Yeah, give it a shove. Well, rug got money now, baby, give it a tug. D'écouter Viva le cinéma qui s'invite sur Kixa. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Julien, merci d'avoir préparé cette émission.
Bah, merci à vous, j'espère que ça vous a plu.
Voilà, et puis on se retrouve dans Kixa les semaines prochaines. Et puis j'espère que Viva le cinéma, tu reviendras faire vivre le cinéma dans Kixa bientôt, j'espère.
Avec plaisir.
Ouais. Très bon après-midi sur Radio Galère et bonne journée à tous et à toutes.